Chapitre 3. La libération de Destouches. La première expédition. La première expédition semblait simple. Pour garder Destouches, il n'y avait à Avranches que ce bataillon de bleus qu'il avait attrapé et mis dans la prison de la ville. De plus, il allait y avoir le lendemain à Avranches une grande foire de bœufs et de chevaux qui durait 3 jours. Des alentours, une masse de bêtes et de gens allait arriver, ce qui rendrait la surveillance de la police plus difficile. Le lendemain, les 12 ont quitté Touffe-de-Lys, un à un, et sont allés à Avranches par les bois. Pour ne pas être reconnus, ils avaient décidé d'entrer dans la ville par 12 côtés différents, déguisés en blattiers, vêtus comme eux de vestes blanches et coiffés de grands chapeaux qu'ils avaient saupoudrés de farine. Nous ne pouvions pas emporter des fusils, mais quelques-uns avaient glissé dans leurs ceintures des couteaux et des pistolets. Tous portaient par ailleurs le terrible fouet des blattiers, qui conduisent presque toujours 2 ou 3 chevaux chargés de sacs de blé. C'était une arme effroyable. Nous, les femmes, attendions au château. Le temps passait. Le soir du 2e jour de la foire d'Avranches, nous avons vu une flamme rouge à l'horizon. « Aimé, ai-je dit, c'est le feu. Nos hommes brûleraient-ils Avranches pour libérer Destouches ?» Mais 2 heures après, le feu s'est éteint. Or, l'incendie d'une ville aurait demandé plus de temps. Puis, nous avons entendu sous nos pieds le houhou de la chouette. « C'est lui !» a crié Aimé. Nous sommes descendus avec la rapidité de 2 hirondelles qui plongent d'un toit vers le sol. C'était bien Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, le visage noir, les cheveux brûlés, l'air d'un diable. « Ah !» lui ai-je dit. « Vous êtes parti blanc comme un sac de farine et vous revenez noir comme un sac de charbon. »« Oui, » a-t-il répondu. « Mais c'est le noir du deuil, le deuil de la défaite. Nous n'avons pas réussi, mademoiselle. Il faut recommencer demain. » Il nous a raconté l'expédition. À midi, les 12 sont entrés dans Avranches. Ils ont joué leur rôle de blattiers. Il y avait beaucoup de monde à la foire cette année-là. La ville était pleine de gens, d'animaux et de voitures de toutes formes et de toutes grandeurs. Le plan consistait à déclencher une bagarre au milieu des tentes et des animaux apeurés. Pendant cette bagarre, 3 ou 4 hommes se glisseraient dans la prison, y délivreraient le chevalier et retourneraient rapidement dans les bois. Mais la prison avait 2 tours. Pour entrer dedans, il fallait ruser. Vinel Royal Oni devait s'occuper de la gardienne de la prison. On l'appelait la Oxon. C'était une femme de 45 à 50 ans. Vinel a couru sur elle et l'a embrassée sur les joues, à la manière normande, par 3 fois.
« Et bonjour, ma cousine !» lui a-t-il dit. « Comment allez-vous »«
Vous ne me reconnaissez pas ?»«
Je suis votre cousin Trépied de Carquebus. »
Il était si sûr de ce qu'il disait qu'elle a invité ce cousin inconnu à boire un verre de vin. Vinel a bu un verre, puis un autre, puis encore un autre. Voyant que la Oxon buvait autant que lui, il a envoyé une petite fille que la Oxon appelait la Petiote à son fils chercher de l'eau de vie. Mais la Oxon ne devenait pas ivre. Alors, il a essayé de l'acheter. Mais le fils de la Oxon avait été tué par les chouans de manière horrible.
« Ah !» lui a-t-elle dit. « Tu es un chouan, et tu viens pour le prisonnier. Petiote !» a-t-elle dit à la petite fille. « Va vite chercher les bleus !»
Vinel Oni a alors jeté un escabeau dans les jambes de la petite pour qu'elle ne parte pas. Mais la Oxon s'est échappée par un couloir. Elle a grimpé l'escalier d'une des tours, a ouvert la porte de la prison et s'est enfermée à clé avec le prisonnier. Le temps passait. Il était l'heure à laquelle les 11 faux blattiers avaient prévu d'agir. Ils pensaient que Vinel avait réussi. 2 sont entrés sous une des tentes de la foire où il y avait beaucoup de monde avec leurs bâtons de blattier à la main. Juste le Breton a dit
« Personne ne boira ici tant que nous n'aurons pas bu !»
Tout le monde s'est retourné à cette voix insolente.
« Es-tu fou, blattier ?»
a dit un paysan.
« Ôte ton bâton de là et garde-le pour défendre tes oreilles !»
Juste a alors levé son bâton par-dessus sa tête et l'a fait tomber sur des verres qu'il a cassés d'un coup. La bagarre a commencé. Tout le monde était debout, criant, menaçant.
Les femmes poussaient des cris. Nos deux hommes ont alors poussé le cri que leurs amis à l'extérieur de la tente attendaient.
« À nous, les blattiers !»
Les blattiers ont répondu à ce cri par le claquement de leurs fouets. Ils se sont mis à donner des coups de fouet sur la foule. Le cri
« Ce sont les chouans !»
est parti de 20 côtés à la fois. Le bataillon des Bleus a voulu passer à travers cette masse de gens, mais impossible. Le sang jaillissait de partout. Les 11 ont tapé pendant près de 2 heures. Tout à coup, M. Jacques a vu à la hauteur du soleil qui commençait à baisser qu'il était l'heure d'aller rejoindre Vinaloni. Avec la souplesse du chat sauvage, il s'est glissé à travers les jambes des hommes qui se battaient. Puis il est allé à la prison, où il a trouvé les Bleus. Quand il avait entendu les gens dire « ce sont les chouans », ils étaient repartis à la prison pour surveiller le prisonnier. Le jour baissait. Monsieur Jacques pensait que Vinaloni était dans la prison. Il a grimpé jusqu'à un trou où il a envoyé son cri de chouette pour avertir Vinaloni. Vinel l'a entendu et est venu vers lui et lui a raconté que la gardienne lui avait échappé et qu'elle s'était enfermée avec le prisonnier dans la tour.
« Pour ce soir, sauvons ceux qui se battent à la foire », a dit Monsieur Jacques. « Et pour cela, mettons le feu à la prison. »
Ils voulaient faire diversion. Ils ont mis le feu dans un grenier en haut d'un bâtiment situé entre les deux tours. Ça tombait bien. Les 10 n'en pouvaient plus. Marchant au pas, les 10 se sont avancés à travers cette foule qui partait à cause du feu, broyée par les bœufs qui couraient çà et là. Ils ont réussi à se sauver et sont tous rentrés. Monsieur Jacques aussi est rentré. Pas Vinel. On a su après qu'il s'était battu avec les Bleus à la prison et qu'il l'avait blessé mortellement. Entre les deux expéditions. Pour recommencer, il fallait avoir des nouvelles de Destouches. J'ai proposé à ces messieurs d'aller à Avranches en chercher. Pour me mélanger avec les gens de la ville, je me suis déguisé en femme du peuple qui va vendre du beurre à la ville. On ne parlait partout que des faux blattiers et du feu mis à la prison. Mais au moins, criaient les gens, nous sommes délivrés du Destouches. La nuit du lendemain de ce jour terrible, on avait en effet fait quitter la ville aux prisonniers. Il était parti pour Coutances, où il devait être jugé et certainement condamné à mort. Je suis revenu à Touffe-de-Lys apprendre à nos amis le changement de prison de Destouches.
Messieurs, a dit Monsieur Jacques, pensez vos blessures. Dans 2 jours, il faut que nous soyons à Coutances. Coutances est une ville plus grande qu'Avranches, et nous sommes moins forts que nous n'étions. Nous ne sommes plus que 11.
Vous êtes toujours 12, monsieur,
lui ai-je dit. Puisque monsieur Vinaloni n'est pas revenu, je propose de le remplacer. Voilà comment, baron, j'ai participé à la seconde expédition des 12.
On a commencé par panser les blessés, puis on s'est occupé des armes. Une 20aine de belles mains de femmes, parmi lesquelles il y avait les 2 mains de la dame qui brode là-bas, sous cette lampe, sont devenues noires en fabriquant des cartouches pour nos hommes. Aimée, toujours sérieuse comme une reine, semblait heureuse. Mais M. Jacques, triste ce jour-là plus que les autres jours, nous a dit qu'il mourrait dans cette seconde expédition. Aimée n'a pas cru à ce pressentiment de M. Jacques. Elle a pensé qu'elle pourrait lui enlever cette idée de la tête en faisant ce soir-là la chose la plus extraordinaire qu'une femme puisse faire. Elle s'est levée de table et sa meilleure amie, Jeanne de Montevreux, l'a suivie. Peu de temps après, elle est revenue avec Jeanne dans la salle de Touffe-de-Lys. Ce n'était plus la même femme. Elle était habillée de blanc et portait un voile.
« Messieurs, a-t-elle dit d'une voix pleine d'émotion, vous allez partir tout à l'heure. Quand reviendrez-vous et combien serez-vous ? Dieu seul le sait. Un de vous n'est pas revenu d'Avranches. Il peut en manquer un, peut-être plusieurs, à votre prochain retour. Eh bien, j'ai voulu, pendant que vous êtes tous ici, vous demander d'être les témoins de mon mariage avec M. Jacques. Acceptez-vous ?
Ils se sont tous levés. Quand elle a terminé de parler, j'ai regardé M. Jacques. Si elle lui avait mis une couronne de roi sur la tête, il n'aurait pas été plus fier.
Vous serez témoins, messieurs, a-t-elle dit, que moi, aimée Isabelle de Spence, comtesse de Spence, marquise de l'Atalan, je prends aujourd'hui pour époux M. Jacques, soldat au service de Sa Majesté notre roi. comme de nos jours il n'y a ni église ni prêtre, j'ai voulu au moins devant vous, qui êtes chrétiens et gentilshommes, jurer obéissance et fidélité à Monsieur Jacques. » Ils se tenaient l'un à côté de l'autre, elle splendide et lui comme éclairé par sa splendeur. « Hélas, a-t-elle dit avec la tristesse du regret, je n'ai pas de croix sur laquelle jurer serment. »«
Si, madame, a dit Beaumont, qui a eu une idée de soldat. « Croise ton épée avec la mienne, a-t-il dit à la varennerie, qui était en face de lui. »
Ils ont croisé leurs épées, cela a fait une croix. Et devant ces deux épées nues entrecroisées, qui pouvaient être rouges dans quelques heures, Aimé de Spence et Monsieur Jacques se sont jurés fidélité.
« Voilà de belles noces !» a dit la bochonnière, qui était le plus jeune des 12. « Mais on danse aux noces. Si nous dansions !»
En un clin d'œil, la table a été enlevée. Je jouais assez bien du violon, comme beaucoup de femmes de ma jeunesse. J'ai donc joué comme un homme. Je n'ai plus jamais joué depuis.
« Tu es une bonne fille, Percy, que le bon Dieu a mise dans un tempérament d'homme courageux, » a dit l'abbé.
Aimée, selon la coutume, a ouvert le bal. Elle voulait qu'on ne l'appelle cette nuit-là que Madame Jacques, et nous ne lui avons pas donné d'autre nom. Elle était magnifique dans cette robe de mariée. Vers 3 heures du matin, il a fallu penser au départ et à l'expédition. En 3 secondes, tout le monde était prêt.
La seconde expédition.
Nous avons marché de Touffe de Lys à Coutances, a continué la vieille historienne. Nous sommes arrivés de bonne heure chez des paysans qui nous ont appris que Destouches avait été condamné la veille au soir par le tribunal de Coutances et qu'il devait être guillotiné le lendemain. Il fallait agir vite.
Cette nuit, a dit Monsieur Jacques, nous devons entrer dans la prison et y prendre ou y délivrer Destouches par la force. Ce sera difficile, messieurs. La prison se trouve au milieu de 3 grandes cours. Nous entrerons avec des obus et des balles.
« Eh bien, » a dit juste le Breton, dont le surnom était le Téméraire, « soyons donc des projectiles et entrons. »
J'ai vu beaucoup de gens courageux dans ma vie, mais je n'en ai pas vu de ce genre-là. Ils l'appelaient le Téméraire, mais ils auraient pu l'appeler rien d'impossible. Il l'a prouvé ce jour-là, où il a hélas commis une imprudence qui a causé la mort de Monsieur Jacques et qui pouvait tous nous tuer. Nous avions chacun un bon fusil, avec de la poudre et des balles, et à la ceinture un gros couteau. Nous sommes entrés dans la ville à 1:15. Les rues étaient muettes, pas un chat n'y passait. Nous avons longé une rue, puis une autre. Toujours le même silence et la même solitude. Nous avons tourné au coin de la rue et nous nous sommes trouvés nez à nez avec la guillotine, droite et menaçante devant nous, qui attendait son homme. L'abbé et le baron ne respiraient plus. La sentinelle, dans son manteau bleu, se promenait calmement. «
Je me charge de la sentinelle, » a dit à voix basse juste le Breton à Monsieur Jacques.
Et d'un bond, il a sauté sur elle et a disparu avec son paquet, en nous laissant le passage libre. Serrés les uns contre les autres, nous sommes entrés dans la première cour de la prison. C'était une cour ronde. Elle était vide. Où était Juste ? Nous avons traversé rapidement la deuxième cour, aussi déserte que la première, pour arriver à la prison qui était au fond de la troisième cour. Le gardien n'était pas couché. Ce n'était plus l'énergique Oxon d'Avranches, c'était un cordonnier. Sa femme et sa fille, une enfant de 13 ans, dormaient dans une petite chambre à laquelle on montait avec une échelle. Avec nos fusils, nous l'avons ouverte et nous sommes tombés sur cet homme en lui ordonnant, le couteau sur le cœur, de donner ses clés et de nous conduire à Destouches. Il n'a pas résisté. Il a donné ses clés et, traîné par 2 d'entre nous, il nous a conduits au cachot de Destouches. Sa femme et sa fille n'avaient pas bougé, mais pour qu'elles ne descendent pas, nous avons enlevé l'échelle.
« Vive le roi ! »
avons-nous crié en entrant dans le cachot de Destouches. Destouches était assis, lié de chaînes, mais très calme. 3 d'entre nous l'ont pris sur leurs épaules et l'ont emporté. Nous avons laissé la vie au gardien, mais nous l'avons enfermé dans le cachot de Destouches. Puis, nous avons retraversé les 3 grandes cours, toujours solitaires. Nous avons repris les rues que nous avions prises à l'aller, toujours sans rencontrer personne. Puis, dans l'immense silence de la ville, nous avons entendu un coup de fusil. Presque au même instant, une autre détonation a déchiré l'air.
« C'est le fusil de Juste le Breton, » a dit Monsieur Jacques.
Il n'avait pas fini de parler que Juste, comme un tigre, tombait parmi nous et nous disait de sa voix claire
« Doublez le pas, voici les bleus !»
Apprenez ce qui s'était passé, Monsieur de Fiadra. Le téméraire, au lieu de tuer la sentinelle, l'avait emportée vivante, à bout de bras, dans la cour de la prison. Quand il nous avait cru assez loin de la prison, il l'avait lâchée. Il pensait l'avoir étouffée. Mais quand il était parti, la sentinelle s'était relevée, avait ramassé son fusil et avait tiré pour appeler à l'aide. Nous marchions vite. Derrière nous, nous avons aperçu une troupe de soldats et nous avons tiré. Eux aussi ont tiré. Nous arrivions à la porte de la ville. Il était temps. Les bleus, qui derrière nous avançaient, ne prenaient que le temps de recharger leurs fusils. Au dernier coup qu'ils ont lancé sur nous, Monsieur Jacques est tombé. J'étais près de lui quand c'est arrivé. « Est-il mort ? » ai-je demandé à Juste le Breton qui l'avait relevé. « Mort ou non, » a-t-il répondu, « nous ne le laisserons pas au bleu. » Et le levant de ses deux bras d'Hercule, il l'a mis sur les épaules de ceux qui portaient déjà des touches. Au bout de 2 heures de marche, nous sommes descendus près d'une rivière au bord de laquelle il y avait un grand bateau. Ceux qui portaient des touches et Monsieur Jacques les ont déposés dans ce grand bateau. Quand le jour est arrivé, nous avons pu juger de l'état de Monsieur Jacques. Il avait reçu une balle en plein cœur. Il était mort. Sans prêtre, loin de tout, nous lui avons rendu le seul honneur que des soldats peuvent rendre à un soldat, en le saluant une dernière fois du tir de nos fusils. Nous avons alors pensé à délivrer le chevalier des touches de ses chaînes. Nous avons essayé de forcer et de casser toute cette ferraille, mais comme nous n'avions que des couteaux de chasse et nos fusils, un tel travail risquait d'être long et peut-être impossible. Mais un hasard nous a tiré de l'embarras.
« Ah, c'est l'histoire de Couillard !»
a dit en bougeant dans son canapé Mademoiselle Sainte de Touffe de Lys. Couillard était son horloger. «
Il est venu encore ce matin remonter la pendule !» a-t-elle ajouté.